La science CQFD, Natacha Triou.
Il est déjà 16h, 16h38, et 16h38 secondes. Mais si après tout, le temps n'existait pas. La réponse à cette question peut sembler évidente. On voit bien les enfants grandir et nos cheveux blanchir à mesure qu'ils passent. Nos existences entières sont construites autour de lui, le temps. Ce concept abstrait et évolutif nous questionne depuis des siècles. Et même après la découverte de son inexistence, il reste aujourd'hui mal défini et continue de poser des difficultés à la physique moderne. Temps, et si tu n'existais pas ? Marc Lachaiserie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, cosmologiste, directeur de recherche émérite au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris. Parce que la physique n'est pas la seule autorité à parler de temps, bonjour Alexis de Saint-Ours.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et enseignant à l'Université Paris-Cité. Alors merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Tout au long de cette heure, nous allons parler du temps et de sa complexité, comment ce concept a évolué, comment il a été compris dans l'histoire. Un sujet très riche à la croisée de la philosophie et de la physique. Il existe d'ailleurs un dialogue entre ces deux disciplines et nous verrons ce qu'il en ressort de ce dialogue. Et si le temps n'existait pas, c'est compliqué, cela dépend de ce que nous entendons par exister. Au départ, il a bien fallu l'inventer. Écoutons notre archive de 1990, extrait des Nuits magnétiques, l'origine de la mesure du temps.
À l'origine, le temps n'existe pas. Et puis, il faut bien le créer. Et il a fallu pour cela avoir une certaine sensibilité au temps. Et en avoir une nécessité. Or, pendant des centaines de milliers d'années, les gens n'avaient pas besoin du temps parce qu'ils vivaient dans une unité de temps. Ils vivaient ensemble et ils vivaient à travers un certain nombre de rites dont la mort n'était qu'un des nombreux rites après celui de la naissance, éventuellement des rites de passage à l'âge adulte, des rites guerriers. Et c'est quand l'homme s'est sédentarisé et qu'il a dû commencer à prendre rendez-vous avec d'autres communautés interdépendantes les unes des autres, à la fin du néolithique, il y a environ 10 000 ans, qu'il a fallu établir une notion absolument neuve et moderne qui est le rendez-vous. Et il a fallu fixer un espace dans le temps qui est l'espace dans lequel on se rencontre. Ça, c'est à l'origine du temps. Le temps est devenu un moyen, est devenu un instrument. Très rapidement, le temps est devenu aussi le moyen de coercition le plus dramatique, l'instrument de domination le plus terrible que l'homme ait pu exercer et employer contre l'homme. Parce que dans l'espace du temps, on a fixé un certain nombre de choses à faire, et puis on a fixé des obligations dans un temps donné. Et le jour où on a réussi à mesurer le temps d'une manière précise, plus précise, on a augmenté cette coercition jusqu'aux horaires les plus drastiques que l'on connaisse, qui sont ceux des transports, par exemple, et qui font que les communautés sont astreintes à pratiquement faire la même chose dans le même temps donné.
Marc Lachaiserie, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
J'apprécie ce discours parce qu'il énonce assez clairement que le temps est une construction et même une construction sociale. Et c'est bien évident que nous vivons dans le temps, mais nous devons nous rendre compte que, contrairement à ce qu'on croit parfois, le temps n'est pas une grandeur physique, le temps n'est pas quelque chose qui existe en physique, c'est quelque chose que nous avons construit, je crois qu'il prononce le mot « instrument », un instrument qui nous aide à vivre en société. Donc je pense que c'est très intéressant ce qu'il raconte et on pourra développer là-dessus.
Tout à fait. Alexis de Saint-Ours ?
Oui, peut-être revenir sur cette expression « dans le temps » qui est employée à plusieurs reprises dans le dans cet extrait. Ça signifie que le temps serait quelque chose comme le contenant du devenir. Et manifestement, c'est quelque chose qui est assez problématique. Parce que sans doute, ce vers quoi va la physique, c'est vers cette idée que le temps n'est pas le contenant du devenir.
Alors là, et si le temps n'existait pas, il faut déjà pouvoir définir le temps. Prenons le temps ensemble de clarifier ce dont on parle quand on parle de temps et de son existence, Marc Lachaiserie. Il y a des distinctions à faire.
Alors, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que finalement, pendant très longtemps, les physiciens, Alors, ils utilisent le temps, au moins depuis Galilée et Newton, mais ils sont relativement incapables de définir. Et ça date pas de Galilée et Newton, puisque saint Augustin lui-même disait la phrase très célèbre et répétée que si on me demande ce que c'est que le temps, je ne sais pas répondre. Et le paradoxe, c'est que on s'est aperçu, comme on va le dire tout à l'heure, au XXe siècle, que cette notion de temps n'existe pas vraiment en physique, et il me semble que c'est à partir du moment où on a compris que cette notion de temps n'existait pas qu'on est arrivé à le définir. Parce que ce qui est bien défini, ce sont des notions qui sont reliées au temps. La notion de durée, simultanéité, chronologie, datation, antériorité, causalité, qui sont des notions qui, dans notre esprit, et d'ailleurs dans la physique de Newton dont on parlera tout à l'heure, sont intimement reliées. Et ce dont on s'est aperçu au XXe siècle, c'est que ces notions ne sont pas du tout reliées, et donc c'est ça qui représente finalement le fait que le temps n'existe pas. Et on va parler de Newton tout à l'heure. Ce que Newton a fait, c'est que voyant que toutes ces notions étaient reliées, il les a finalement réunies dans une notion qu'il a introduite lui-même dans la physique, et qu'il a appelé le temps universel. Et moi, j'appelle ça l'ansatz newtonien. Ansatz au sens d'une hypothèse, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était possible à l'époque d'énoncer, et Newton l'a énoncé, mais qui n'est pas du tout une conséquence logique de ce qu'on observe et de ce que l'on peut déduire des phénomènes physiques. Et au contraire, comme je vous l'ai déjà dit, au XXe siècle, on s'est aperçu que toutes ces notions que je viens de mentionner n'étaient pas liées les unes aux autres, et que donc on ne pouvait pas les rassembler dans une notion unique qu'on appellerait le temps.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, hein, Carlo Rovelli, dans L'Ordre du Temps, écrit, je le cite, « Nous pensons communément au temps comme quelque chose de simple, de fondamental, qui s'écoule uniformément du passé vers le futur, indifféremment à tout, mesuré par des horloges. Dans le temps, les événements de l'univers se succèdent en bon ordre, passé, présent, futur, le passé est fixé, le futur ouvert. Eh bien, tout cela s'est révélé faux. » Une réaction d'ailleurs à ce texte, Alexis de Saint-Ours.
Oui, alors peut-être plutôt qu'au texte par rapport à ce que vient de dire Marc, je rejoins parfaitement Marc sur le fait qu'effectivement, le temps est finalement un concept trop riche. Il y a trop d'attributs du temps. Et donc, il est sans doute plus judicieux, plus intéressant de parler de figure du temps que de parler du temps en général. Le temps de la mécanique classique, c'est pas le temps de la thermodynamique, et le temps de la mécanique classique, c'est manifestement pas le temps vécu ou la temporalité vécue de nos existences.
Alors, on va revenir également sur ces notions, justement, mais ça veut bien dire qu'il faut donc réussir à distinguer, quand on parle de tout ça, de distinguer les durées du temps.
Alors, absolument. Et là, je voudrais faire une remarque qui est absolument fondamentale et qu'il faut vraiment établir, je crois, au début, si on veut continuer la discussion. C'est que ce qu'on appelle un instrument qui mesure du temps, c'est-à-dire une montre, une horloge, quelque chose comme ça, en fait, c'est un instrument de mesure des durées. C'est-à-dire une horloge mesure une durée, une montre mesure une durée, à savoir la durée entre le moment où on l'a mise à l'heure et le moment où on la regarde. Et dans la montre, il y a un petit dispositif qui, une fois qu'on a mis la montre à l'heure, convertit cette durée en l'additionnant à l'heure de la mise à l'heure et en donnant une heure. Mais fondamentalement, et j'en ai discuté un peu avec des horlogers récemment, c'est un instrument de mesure des durées. C'est-à-dire une montre, ça n'est rien d'autre qu'un chronomètre. Et si vous avez une montre parfaite qui sort de l'usine, si vous la mettez pas à l'heure, jamais elle va vous indiquer le temps. Et il n'existe dans la nature, dans la physique, aucun instrument qui vous donne le temps, et il n'existe aucun moyen de mesurer quelque chose qu'on pourrait appeler le temps. Et vous-même, les notions que vous avez, c'est pas du tout une notion de temps. C'est-à-dire, si vous vous réveillez dans une pièce noire au milieu de la nuit, eh bien, vous ne pouvez pas dire « je sais qu'on est le 25 avril à 3 heures du matin ». Mais en revanche, si vous restez éveillé pendant une certaine durée, vous pouvez dire « bah voilà, je suis resté réveillé pendant une heure ». Donc, la notion de durée, c'est à la fois ce que l'on mesure quand on dit qu'on mesure du temps, et c'est à la fois ce que l'on ressent, ce qui rythme, par exemple, toutes nos réactions biologiques, ce qui rythme les réactions dans notre cerveau, nos pensées, etc. Donc, dans beaucoup de circonstances, pas toutes, et ça on le verra peut-être, il faut remplacer la notion de temps par la notion de durée. Et c'est pas la même chose, on en parlera peut-être dans un instant.
Autre distinction aussi, peut-être à faire, hein, c'est le distinction entre le temps et le devenir.
Alors, Oui, de toute façon, peut-être
vas-y. Sur la question, effectivement, les horloges, une horloge, ça ne mesure pas le temps. Ça, je crois qu'il faut, on est vraiment d'accord là-dessus. C'est absurde de dire qu'une horloge de temps, il faut au contraire affirmer que c'est les horloges qui permettent de définir le temps et plus exactement des notions de durée. Et c'est bien des horloges, ce n'est pas une horloge. C'est-à-dire que quand on regarde un tout petit peu les prémices des premières mesures du temps, on voit bien que les premières horloges dans le ciel, c'est le temps solaire. C'est-à-dire le retour en un point du ciel, du soleil, ou encore le temps sidéral. Donc ces deux horloges, il y a des horloges naturelles. Les satellites de Jupiter pouvaient effectivement fonctionner comme des horloges naturelles également. Donc ça n'a aucun sens de se dire que ces horloges naturelles mesurent le temps. Non, au contraire, le temps est défini à partir du mouvement de ces horloges naturelles. Et il se trouve qu'il y a des horloges qui mesurent mieux le temps que d'autres. Autrement dit, il y a des horloges qui sont plus intéressantes pour la prédictibilité des phénomènes physiques que d'autres. Oui. Un dernier mot là-dessus. Les Grecs, aussi bien Hipparque au IIe siècle avant Jésus-Christ que Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ, étaient capables de prédire des éclipses lunaires dans un modèle géocentrique. Et ils étaient capables de prédire des éclipses lunaires en utilisant un type d'horloge, le temps sidéral. C'est-à-dire que si vous utilisez le temps solaire, vous n'êtes pas capable de prédire des éclipses, alors que ça marche avec le temps sidéral.
Marie Chézry.
La petite précision que je voulais faire, c'est que si vous supposez que vous avez aujourd'hui des horloges parfaites, qui sortent des horloges atomiques, qui sont les horloges les plus précises, en imaginant qu'elles ne font jamais d'erreur, si vous synchronisez deux horloges, et puis que vous en prenez une et que vous allez la promener un petit peu à droite à gauche, même sans avoir besoin d'aller très vite, vous les ramenez, elles ne sont plus synchronisées. C'est-à-dire que deux horloges mesurent des choses différentes. Alors, nous savons que ce sont leurs durées, mais ce qui est certain, ce que montre l'expérience, ce que montrent les observations depuis maintenant plus d'un siècle, c'est que deux horloges, même si elles sont toutes les deux parfaites, ne mesurent pas la même chose. Elles mesurent la même chose quand elles sont à côté de l'une de l'autre et immobiles l'une par rapport à l'autre, mais dès qu'il y en a une qui bouge, qui va un peu à droite ou à gauche, elles mesurent quelque chose de différent. Donc déjà, on sait que les horloges ne peuvent pas mesurer le temps puisqu'elles donnent des indications différentes. Au mieux, il y en a une, mais chacun va vouloir dire que c'est la sienne. Et c'est pour ça que si on veut réintroduire une notion de temps, parce que bon, il y a des physiciens de l'ancienne génération, et puis après la relativité générale, si vous voulez, cette notion de la disparition du temps a choqué beaucoup de monde. Donc beaucoup de physiciens, de philosophes ont essayé de réintroduire cette notion de temps et se sont aperçus que chaque observateur, chaque horloge, chaque système avait un temps différent. Donc, est-ce qu'on peut vivre avec une notion de temps telle que le temps soit différent pour vous, soit différent pour moi, soit différent pour moi si je suis au premier étage ou au deuxième étage, etc. Donc, on s'aperçoit, on ne peut pas s'en sortir. Et ce qui est maintenant vraiment exploré par les physiciens, c'est que quoi qu'on fasse, il n'y a pas de moyen de définir quelque chose qui s'appelle le temps, qui soit défini pour tout le monde. Or, à l'époque de Newton, ces petites différences dont je viens de parler, on n'avait pas les horloges atomiques qui permettaient de s'en rendre compte. Donc, du point de vue de Newton, toutes les horloges pouvaient être synchronisées à la précision qu'il y avait à l'époque, qui était peut-être de l'ordre de la seconde ou un peu inférieure. Et donc, c'est ça qui a permis à Newton de faire ce que j'appelle cet ansatz newtonien, c'est-à-dire que, puisque toutes les horloges mesurent des choses équivalente, cette chose équivalente, elle est commune à tout le monde et on l'appelle le temps. Donc l'introduction du temps et ensuite au 19e ou 20e siècle, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, donc on ne pouvait plus garder cette notion de temps introduite par Newton.
Alexis de Saint-Ours, hein, pourquoi est-ce si difficile de définir le temps ? La principale difficulté est liée au langage commun.
Alors oui, il y a quelque chose avec le langage, indéniablement. Il y a des ambiguïtés dans la langue française par exemple, quand on dit que je suis arrivé à une heure. Est-ce que ça renvoie à la durée ? Est-ce que ça, en allemand, il n'y a pas ce genre, par exemple, d'ambiguïté ? Je pense que l'une des ambiguïtés qui est plus profonde qui est liée à la langue, c'est celle qui a à voir avec la question du changement. Vous évoquez la question du temps et du devenir. Est-ce que le temps préexiste au changement ou est-ce que le temps est une abstraction à partir duquel on arrive ? Est-ce que le temps est une abstraction à partir duquel les changements nous conduisent vers ce concept de temps ? Autrement dit, le temps newtonien dont on parlait tout à l'heure, c'est un temps qui préexiste de façon indépendante du changement. Et manifestement, ce qui a été découvert par la physique à partir de du début du XXe siècle. Marc parlait de relativité restreinte tout à l'heure en parlant de désynchronisation des horloges. C'est finalement cette idée que le temps ne préexiste pas au changement.
Alors par rapport à ces notions de temps aussi, on évoque la notion de durée. La durée, c'est aussi quelque chose de subjectif. Là, par exemple, pour nos auditeurs, l'émission a commencé depuis 15 minutes. Ça se trouve, elle paraît très très longue pour certains, ou au contraire, d'autres pensent qu'elle passe très vite. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez curieux, Alexis de Saint-Ours.
Je pense qu'il faut se méfier de ne pas donner trop d'importance à notre expérience ordinaire du temps. Elle a une importance au regard de notre vécu, indéniablement, mais au regard des échelles à l'œuvre dans l'univers, l'échelle de Planck 10 puissance moins 33 cm, les échelles cosmologiques lors de 10 puissance 30 cm, il y a une gamme d'échelles absolument gigantesque. Et nos existences humaines sont infimes au regard de tout ça. Donc, s'imaginer que notre vécu temporel serait quelque chose qui serait susceptible d'être généralisé à toutes les échelles est finalement quelque chose dont il faut sans doute se débarrasser.
Marc Lachette.
Mais votre remarque est intéressante parce que ces durées subjectives, elles ont la caractéristique qu'elles sont différentes pour chacun de nous. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui écoute cette émission qui pour nous dure une heure, on a la pendule au-dessus de nous, mais peut-être quelqu'un qui va un peu s'ennuyer, ça va lui paraître très long, ça va lui paraître durer une heure et quart. Quelqu'un qui est passionné, ça va lui paraître durer une demi-heure, beaucoup trop court. Donc, si vous voulez, entre deux événements bien précis qui sont le début de l'émission et la fin de l'émission, différentes personnes vont avoir des impressions de durée subjective différentes. Alors, ça n'est pas du tout ça, la durée physique, mais je prends ça comme une image parce que ce qui, maintenant, est établi par la relativité, par des tas de mesures, des tas d'expériences, c'est que c'est la même chose pour les durées physiques. C'est-à-dire que, entre le début de cette émission et la fin de cette émission, si vous prenez deux horloges, il y en a une qui va indiquer une heure, l'autre qui va inviter une heure plus quelques microsecondes, l'autre une heure plus moins quelques microsecondes. C'est-à-dire que la durée entre deux événements bien précis n'est pas quelque chose qui existe. Mais chaque horloge vit une histoire différente entre deux événements et chacune de ces histoires différentes vécues par des horloges différentes a une durée différente. Et on appelle ça d'ailleurs les durées propres puisque ça n'est pas une notion qui est commune à tout le monde, qui est universelle. Et c'est à partir de cette constatation erronée, parce qu'à l'époque on n'avait pas la précision qui nous permettait de saisir les petites différences, c'est à partir de cette constatation erronée que toutes les durées sont équivalentes que Einstein a pu dire, la durée n'est finalement que la manifestation de quelque chose d'universel, qu'il a appelé le temps universel, dont on sait maintenant que ce temps universel n'est pas du tout universel, mais que c'est quelque chose qui a une approximation largement suffisante pour la vie courante et pour quelques expériences de physique simple, reste valable à l'échelle de notre planète, mais pas plus loin.
La divergence entre la compréhension scientifique du temps et l'intuition que nous en avons préoccupe les penseurs depuis longtemps.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
16h18 sur France Culture avec Marc Lachaiserie, Alexis de Saint-Ours. Nous parlons de la notion du temps, de sa définition, de son passage. C'est un casse-tête étudié depuis des siècles par la physique et la philosophie. Alexis de Saint-Ours, pour remonter un peu dans le passé, qu'en dit Zénon d'Élée au 5e siècle avant notre ère avec son paradoxe de la flèche?
Alors, Zénon est l'élève de Parménide et au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a deux grandes doctrines philosophiques qui s'opposent. L'une est celle d'Héraclite. Héraclite affirme, c'est à gros traits, tout ça est bien plus fin, bien plus subtil, mais Héraclite affirme que ce qui caractérise l'essence de toute chose, c'est le devenir, tout devient. Tout est soumis à une forme de devenir, que ce soit la libellule, nos existences humaines ou les montagnes. À des rythmes différents indéniablement, mais rien n'échappe à ce cycle du devenir. Et de façon un peu paradoxale, ou en tout cas un peu contre-intuitive, Parménide s'oppose à Héraclite pour affirmer de façon un peu austère, seul l'être est. S'il n'y a que de l'être, il n'y a pas de devenir. Parce que l'être, le devenir suppose que quelque chose ne se maintient pas dans son être au cours d'une évolution. Et Zénon est un élève de Parménide, Zénon d'Élée, c'est l'école des Éléates, et Zénon va proposer 4 paradoxes destinés à montrer que Parménide a raison contre Héraclite. Autrement dit que, indéniablement, il y a quelque chose d'illusoire dans la notion de changement, donc dans la notion de temps. Et ces 4 paradoxes, c'est le paradoxe de la dichotomie, celui de l'Achille, que la modernité a retenu comme étant Achille et la tortue, celui de la flèche que vous évoquez, celui du stade. Et ces paradoxes, on les retrouve finalement d'une certaine façon en physique contemporaine. On parlera peut-être tout à l'heure un petit peu de l'équation de Wheeler de Witt. Il y a des gens qui adoptent au regard des formalismes de la gravité quantique des positions qu'on va qualifier de parménidiennes et d'autres de positions qu'on va qualifier d'héraclitéennes. C'est-à-dire certains vont affirmer qu'il n'y a pas de devenir, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de changement. Et d'autres vont dire, au contraire, il n'y a que du changement, même il y a du changement pur, du changement sans temps.
Et par rapport au paradoxe de la flèche, je veux bien qu'on le définisse ensemble, parce que c'est assez facile et imagé, en plus, pour nos auditeurs et nos auditrices.
Alors, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, mais le paradoxe de... En fait, les paradoxes de Zénon reposent sur si on considère que le temps et l'espace sont continus ou discontinus. Et les 2 premiers paradoxes visent à montrer que le mouvement est impossible dans une conception continue de l'espace et du temps, et les 2 derniers dans une conception discontinue de l'espace et du temps. Donc la dichotomie, c'est tout simple, hein. Vous prenez un intervalle, je sais pas, vous prenez la distance entre 0 et 1, vous divisez en 2, puis en 2, puis en 2, puis en 2.
Oui, on voit bien sa cible.
Alors, voilà, ça c'est sur la dichotomie, voilà. Mais c'est pas tout à fait la même chose sur la flèche, parce que l'idée de la flèche, elle suppose que le temps est composé d'instants. Et que si le temps est composé d'instants, Zénon affirme que la flèche est immobile en chaque point de son parcours, puisqu'elle est dite identique à elle-même à chaque instant. Et donc, elle ne se déplace pas.
Marc Lachiaiserie.
Oui, je voudrais revenir sur Héraclite Parménide, parce que justement, c'est une opposition qui a balayé toute l'histoire de la philosophie, bien sûr, et même d'une certaine manière de la physique. Et il me semble que cette opposition apparente est complètement résolue justement par la conception relativiste de l'espace-temps, parce que, en gros, est-ce que les choses sont telles qu'elles sont une fois pour toutes, dirait Parménide, ou bien est-ce que tout évolue, au contraire, tout change, comme dirait Héraclite. Et justement, l'introduction du concept d'espace-temps arrive d'une certaine manière à réconcilier les deux, parce que l'espace-temps, il est là, et nous avons une histoire qui s'étend de notre naissance à notre mort, et cette histoire, elle est là dans l'espace-temps, une fois pour toutes, et on peut la considérer de manière globale. Mais en même temps, le long de cette histoire, nous-mêmes, nous évoluons. Donc il y a cet espace-temps qui, d'une certaine manière, est figé, est existant de manière éternelle, une fois pour toutes. Quelquefois, on appelle ça même l'univers bloc, parce que c'est un bloc qui ne bouge plus. Et en même temps, nous évoluons, les objets évoluent, les systèmes physiques évoluent. Donc, pour moi, c'est une réconciliation des deux. Et Aristote donnait une définition du temps qui est le temps, je crois, est l'ordre du mouvement.
La mesure du changement.
La mesure du mouvement, selon l'avant et après. Et
du changement, justement, parce que c'est
alors, du changement.
Le mouvement est une catégorie du changement.
D'accord.
Justement, je voulais qu'on arrive à
mais
Aristote
chez
sur comment
Newton,
il s'y frotte. Sur...
Chez Newton, ça n'est plus vrai. Parce que chez Newton, quand un corps est immobile, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, et pourtant le temps s'écoule toujours. Donc la phrase d'Aristote, elle est complètement fausse selon la physique newtonienne. En revanche, dans l'espace-temps, tous les corps ont exactement le même statut. C'est-à-dire que même un corps qui serait considéré comme immobile, dans l'espace-temps, il est considéré comme décrivant sa ligne d'univers. Donc tout est mobile, tout décrit sa ligne d'espace-temps. Et ce qu'on appelle, alors non pas le temps puisqu'il n'y en a plus, mais les durées, c'est très exactement ce qui mesure la progression le long de votre ligne d'univers. Donc, quoi qu'il arrive, il y a, dans ce cas-là, mouvement, puisque ce qui fait l'essence même de votre vie, c'est que vous progressez d'une seconde à l'autre le long de votre ligne d'univers. Même s'il ne se passe rien, chaque seconde, vous avancez d'une seconde dans votre âge. Donc, vous êtes finalement en mouvement. Donc, je dirais que l'intérêt de la conception de l'espace-temps qui correspond aux théories de la relativité, c'est que ça réconcilie ces vieux antagonismes qu'on trouve dans les réflexions philosophiques antiques.
Alexis de Saint-Ours, pour compléter à propos d'Aristote, justement.
Alors, à propos d'Aristote, finalement, Aristote s'inscrit dans un long débat, là aussi, sur la nature qu'on pourrait qualifier de relationnelle ou de substantielle du temps. C'est-à-dire que, est-ce que le temps, alors je vais reparler de Newton avant de reparler d'Aristote, mais le temps absolu newtonien, c'est l'archétype du temps substantiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par les événements de l'univers physique. C'est une sorte de grande horloge universelle et une sorte de cadre objectif du devenir des entités physiques. Le temps relationnel, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le temps relationnel, il ne préexiste pas, il émerge au contraire du changement à l'œuvre dans l'univers. Donc on peut considérer... Alors, Newton a défendu donc cette idée de temps substantiel. Leibniz s'est opposé à ça, et en fait Leibniz ne fait reprendre que le flambeau d'Aristote. Quand Aristote affirme que le temps est la mesure du changement et le mouvement étant une catégorie du changement, on peut l'interpréter comme étant une conception, comme la défense d'une conception relationnelle de la temporalité, du temps physique.
Le temps, on voit, est un problème qui tourmente les philosophes depuis des siècles. Bonjour Céline Lauzen.
Bonjour Natacha.
Alors vous êtes allée aux archiversels de l'ENS de Paris pour rencontrer justement un philosophe des sciences afin de mieux comprendre comment l'idée du temps a traversé l'histoire des idées.
Oui, en trois escales, on vous propose avec Michel Bidbol un petit voyage temporel à travers une lecture comparée pour tisser une brève dialectique entre physique et philosophie. Trois lectures qui affleurent les problèmes charriés par l'idée du temps, sa perception, sa subjectivité ou bien sa spatialisation. En télescopant Saint-Augustin, Kant et Bergson, Michel Bidbol explique comment le concept du temps a coévolué avec le progrès de la physique.
Ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont pas. Mais peut-être dira-t-on à juste titre, il existe trois temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Car ce triple mode de présence existe bien dans l'esprit. Et je ne le vois nulle part ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'attention actuelle. Le présent du futur, c'est son attente.
Donc pour Saint-Augustin, il y a donc trois présents qui sont liés à notre perception du temps. Entre voilà. La mémoire, l'attention et l'attente.
Tout à fait. Alors déjà, je pense que chez Saint-Augustin, il y a une mise à plat de la notion habituelle d'un temps comme succession du passé, puis le présent, puis le futur, une mise à plat qui indique que finalement, ce temps est seulement subjectif. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a un accord étonnant. Saint-Augustin d'un côté, les physiciens spécialistes de la relativité générale de l'autre côté disent que le temps habituel est une illusion, mais ils le disent d'un point de vue littéralement opposé. Saint-Augustin dit qu'au fond, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent dans lequel la mémoire fait jouer un rôle au passé et l'attente fait jouer un rôle au futur. Mais il n'y a que le présent, en vérité. Alors que chez les physiciens spécialistes de la relativité générale, c'est exactement le contraire. Le présent n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Il y a juste un instant particulier que nous prenons pour le présent. Et en fait, tous les instants sont distribués immédiatement d'un bloc.
Il y a une succession d'instants où ils coexistent dans le temps.
Il y a une coexistence des instants dans une dimension unique.
C'est l'univers bloc, ça.
C'est l'univers bloc, exactement. Donc ça, c'est ce que disent les physiciens spécialistes de la relativité générale.
Alors, est-ce que c'est trop que d'établir une parenté dans cette perception du temps avec Kant, par exemple, dans la critique de la raison pure, quand il dit que le temps dépend du sujet?
Voilà, exactement. Kant dit que le temps est une forme de la sensibilité, c'est-à-dire de la sensibilité du sujet. Mais effectivement, il y a quelque chose de commun entre Saint-Augustin et Kant, c'est au fond l'attribution de l'articulation temporelle au sujet.
Alors, Kant, critique de la raison pure, esthétique transcendantale.
Alors, le temps n'est pas quelque chose qui existe par soi-même, ou qui soit inhérent aux choses comme une propriété objective, et qui, par conséquent, subsiste quand on fait abstraction de toutes les considérations subjectives de leur intuition. Comme toutes les représentations appartiennent toujours par elles-mêmes en tant que détermination de l'esprit à un état intérieur, et que cet état intérieur, toujours soumis à la condition formelle de l'intuition interne, rentre ainsi dans le temps, le temps est la condition a priori de tout phénomène en général. Il est la condition immédiate des phénomènes intérieurs de notre âme et par là même la condition médiate de tous les phénomènes extérieurs. Le temps n'est donc autre chose qu'une condition subjective de notre humaine intuition. En lui-même, en dehors du sujet, il n'est rien.
Alors cet éclairage apporté par Kant suggère bien cette idée du temps conditionné par l'expérience sensible du sujet.
Tout à fait. Alors effectivement, vous voyez que ce que dit Kant ici, d'abord il dit très simplement « le temps n'est rien en dehors du sujet ». Donc ça c'est vraiment clair. Maintenant, il dit aussi quelque chose d'intéressant. C'est que toutes les représentations, c'est-à-dire toutes les impressions, toutes les perceptions, tout ce que l'on peut au fond appréhender, finit par devenir l'appréhension de nous en tant que sujet. Donc, finalement, les phénomènes aussi bien extérieurs qu'intérieurs sont tous conditionnés par l'ordre du temps qui m'appartient en tant que sujet.
Et l'ordre du temps, qu'advient-il dans la conception de Bergson du temps ?
Alors, Bergson, c'est vraiment un cas très intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, il va se mettre à articuler le temps subjectif et le temps des physiciens, c'est-à-dire au fond le temps qu'on mesure, le temps des horloges. Et c'est ça qui est totalement unique, je dis bien unique dans l'histoire de la philosophie. D'habitude, les philosophes parlent soit d'un temps subjectif, comme Kant, comme Saint-Augustin, soit ils essayent de faire les philosophes des sciences, si vous voulez, ils parlent d'un temps objectif mesuré par les horloges.
Mais parle-t-il de la même chose, les durées et le temps ?
Alors, quand il parle de la durée, ça veut dire l'écoulement ressenti du temps. Il dit ceci, « Quand je suis des yeux sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire. Je me borne à compter des simultanéités, ce qui est bien différent. En dehors de moi, dans l'espace, il n'y a jamais qu'une position unique de l'aiguille et du pendule, car des positions passées, il ne reste rien. » C'est parce que je dure de cette manière que je me représente ce que j'appelle les oscillations passées du pendule, en même temps que je perçois l'oscillation actuelle. Donc, il faut effectivement combiner cette sensation de durée avec l'observation du pendule ou de l'aiguille de l'horloge pour constituer le concept de temps. Sans ça, il y a deux choses complètement disparates, les simultanéités d'un côté et la sensation de durée de l'autre.
Merci Céline Lauzen pour ce reportage. Une version longue de cette lecture comparée est disponible sur la page France Culture de La Science CQFD. Une réaction, l'un et l'autre, aux analyses du philosophe Michel Bitbol.
Oui, peut-être revenir sur ce qui a été dit sur Bergson. C'est vrai que Bergson confronte, disons, temps objectif et temps subjectif, avec plus ou moins de succès. Je pense que l'intuition première de Bergson, c'est celle de la durée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour Bergson, il y a quelque chose d'incompressible, qui est la durée. Alors ça s'oppose tout de suite à la relativité restreinte, puisque la relativité restreinte, ça a été expliqué par Marc tout à l'heure, elle affirme justement la relativité des durées, le terme n'est pas bon.
Oui, mais justement, je me permets une petite insiste, c'est que le mot durée chez Bergson n'a pas du tout le même sens que le mot durée en physique et tel que je l'employais.
Indéniablement, sauf que Bergson va lui-même... un moment, là, il est sur le terrain de la physique, puisqu'en 1922, il va publier « Durée et simultanéité », dans lequel il entreprend de confronter sa propre conception de la durée à ce qui est dit de la durée en relativité restreinte. Et c'est un ouvrage manifestement malheureux, dans lequel le philosophe de l'intuition, le philosophe de la durée, s'est sans doute un petit peu égaré, effectivement. Mais à l'origine de l'intuition bergsonienne, il y a quelque chose de très fort, qui est de dire que la physique... transforme le temps en espace. Et que quand le physicien parle de temps, quand le physicien parle de durée, il ne fait en fait que de parler d'espace. Et Bergson prétend justement que sa philosophie cherche à aller à l'expérience de la durée pure, ce à quoi ne parvient pas le physicien qui est coincé, pour ainsi dire, avec une conception spatialisée de la durée.
On voit que le concept philosophique de temps a coévolué avec les progrès de la physique. Une réaction, Marc Lachaiserie ?
Oui, oui. Bon, je parlerai pas de Bergson parce que je pense que vraiment, il était à côté et il avait pas vraiment compris, quoi. Et Einstein avait conclu la discussion avec Bergson en disant que, très poliment, en disant chacun de nous est resté dans sa position. Mais enfin bon, le consensus quand même, c'est que Bergson n'a pas vraiment compris la relativité.
Peut-être à pondérer légèrement, si tu me permets, par le fait qu'à l'époque, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en 1920, il y a un langage qui n'est pas du tout clair. Donc Bergson n'est pas du tout le seul à ne pas comprendre. Il y a plein de physiciens qui...
Mais en revanche, je reviendrai volontiers d'une part sur Kant et d'autre part sur Saint-Augustin. Enfin, ce sont deux choses différentes, mais Kant dit il faut distinguer le temps subjectif et le temps objectif. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le temps objectif, il n'y en a pas. C'est-à-dire, le temps, c'est vraiment quelque chose de subjectif que nous avons réussi à rendre, je dirais, collectivement subjectif en faisant une entité finalement sociale. C'est-à-dire, il y a un temps personnel, évidemment, qui est celui dont parle Kant, que nous ressentons, dont nous avons besoin chacun pour ordonner nos phénomènes. Nos temps subjectifs, dans ce sens-là, sont tous différents, puisque ce que dit la relativité, c'est que la chronologie, de mon point de vue, n'est pas la même que la chronologie de votre point de vue ou du point de vue d'un astronaute, dans le sens où, si j'observe deux événements, pour moi, je vais dire l'événement A s'est produit avant l'événement B, et mon collègue va dire non, l'événement B s'est produit avant l'événement A, et un troisième va dire non, les événements sont simultanés. Ce qu'avait bien vu Einstein en disant, la notion de simultanéité n'existe pas, ne peut pas exister de manière objective, et elle est subjective. Et finalement, c'est par ce biais de la simultanéité, de la constatation par Einstein que la notion de simultanéité n'a pas de sens. Ce qui veut dire que si je pose la question « que se passe-t-il en ce moment même sur la planète Mars ?», la physique nous répond « cette question n'a aucun sens ». Et ce qu'a fait Einstein, c'est qu'en même temps qu'il disait que cette notion de simultanéité n'avait pas de sens physique objectif, il montrait une manière pour chacun de définir sa propre notion de la simultanéité. Et il montrait en même temps que si on faisait ça, nous avions tous des conceptions différentes de la simultanéité qu'il était impossible d'accorder. Et ensuite, il y a un simple raisonnement logique qui montre que si la simultanéité n'existe pas, à ce moment-là, la chronologie, la datation ne peuvent pas exister. Et donc, finalement, le temps dont ce sont des propriétés essentielles ne peut pas exister non plus. Donc, c'est par l'intermédiaire de l'absence de simultanéité que Einstein est arrivé à l'absence d'existence du temps. Et que finalement, l'absence du temps, c'est pas du tout une déclaration d'Einstein. Donc, c'est quelque chose qu'on observe dans la physique par des mesures, par des expériences. Et le mérite d'Einstein est d'avoir réussi à construire une théorie d'abord de la relativité restreinte, puis de la relativité générale, qui n'a pas besoin de la notion de temps. Et cette théorie, non seulement n'a pas besoin de la notion de temps, mais montre qu'on ne peut pas avoir une notion de temps que l'on réintroduit dans la physique, sauf à vouloir définir une notion de temps personnelle à chacun, ce qu'on appelle le temps propre. Et aujourd'hui, les physiciens sont intéressés à se demander dans quelle mesure, lorsqu'on considère un système physique qui peut être un être humain ou bien un système quantique qui évolue ou quelque chose comme ça, dans quelle mesure on peut mesurer son évolution par quelque chose qu'on pourrait appeler le temps, non pas du tout le temps universel, mais un temps qui lui serait propre. Et bon, là, on arrive à quelque chose que je voulais dire seulement à la fin qui est que quand on fait ça, on a plusieurs manières d'associer du temps à un système. On a une notion géométrique, c'est-à-dire que le système, il est toujours dans l'espace-temps, donc il vit une durée propre, et cette durée propre, pour lui tout seul, on peut l'appeler le temps propre. C'est ce qu'on fait souvent, et c'est un caractère géométrique, donc c'est un temps géométrique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre notion de temps qui s'appelle le temps thermique, et qui est liée aux propriétés du système tout seul, à ses propriétés, on va dire, par l'intermédiaire de l'algèbre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux temps, coïncident un petit peu dans la mesure où géométriquement, ils se confondent, mais la notion de temps en tant que grandeur n'est pas la même. Il y a un rapport entre les deux, qu'on peut appeler la vitesse d'un temps par rapport à l'autre. Donc ça réintroduit une notion des temps, il y en a des milliers, donc ils ont chacun une vitesse par rapport à l'autre, et cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la température.
n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi.
Et toute l'équipe de la science CQFD l'avait en tête en préparant cette émission. Il n'y avait pas de raison que l'on ne vous en fasse pas profiter. Jodassin à 16h41 sur France Culture. Et si le temps n'existait pas? C'est la question que nous posons tout au long de cette heure en compagnie de Marc Lachiazeré, astrophysicien, cosmologiste, directeur de recherche émérite au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à l'Université de Paris. Et avec Alexis de Saint-Ours, philosophe, enseignant à l'Université Paris-Cité. Alors, nous venons de parler beaucoup de Newton. Nous parlons également d'Einstein. Pour revenir un peu plus avec Einstein, Einstein affirmait que l'étape clé du développement de la théorie de la relativité avait été de repenser le temps. Marc Lachiazeré.
Oui, de repenser le temps. C'est-à-dire, l'événement déclencheur, c'est le fait, la constatation par Einstein que la simultanéité n'existe pas. Et c'est assez rapide de voir que si la simultanéité n'existe pas, le temps ne peut pas exister, du moins sous sa forme de datation. Parce que s'il y a datation, chaque événement a une date, il suffit de comparer les dates et on peut dire si les événements sont simultanés ou non. Donc pas de simultanéité, pas de temps. Et Einstein donc va formuler sa théorie de la relativité restreinte en 1905, qui ensuite va être formalisée par son ancien professeur Hermann Minkowski, et sous forme de l'espace-temps. Et on s'aperçoit que le cadre pour les phénomènes en physique, ça n'est plus l'espace et le temps comme le déclarait Newton, mais c'est maintenant l'espace-temps. Et il faut comprendre quand même que l'espace-temps, c'est pas simplement, comme on le lit quelquefois, la réunion de l'espace et du temps, c'est quelque chose qui est un bloc autonome dans lequel il est très difficile de distinguer de l'espace et du temps. On ne peut pas le faire de manière objective. Et dans la théorie qui viendra, qui sera encore plus élaborée, à savoir la relativité générale, 10 ans plus tard, cet espace-temps, il est courbe, il se déforme. Et dans certaines circonstances, qui sont les circonstances sans doute majoritaires dans l'univers, il est absolument impossible d'y distinguer de l'espace et du temps, à part très localement pour un système donné. Et par exemple, sur le système Terre, qui est un tout petit système évidemment à l'échelle de l'univers, on peut définir quelque chose qu'on appelle le temps. C'est ce que Newton a appelé temps universel. C'est ce dont on se sert couramment quand on se donne des rendez-vous. Mais il y a d'autres temps. Il y a le temps sidéral, il y a le temps des éphémérides. Et puis chacun est libre de choisir ce qu'il veut comme chronologie. Ça n'a aucune importance parce que de toute façon, ça n'a pas de sens physique. C'est juste un moyen commode pour repérer les événements. Évidemment, on a intérêt à ce qu'ils coïncident plus ou moins avec nos mesures de durée dans les circonstances qui nous intéressent le plus. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le temps universel. Mais ça ne peut pas marcher de toute façon de manière précise et absolue. Donc on fait ce qu'on peut, mais c'est du bricolage.
Alexis,
plutôt que de dire effectivement, comme on l'entend ou on le dit trop souvent, que l'espace-temps est courbe et courbé par la matière, on peut dire que la relativité générale consacre la disparition de l'espace-temps au profit du champ gravitationnel. Autrement dit, plutôt que de dire que l'univers est peuplé de champs dans l'espace-temps, l'univers est constitué de différents types de champs, dont le champ gravitationnel. Et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question, sur la nature relationnelle ou substantielle du temps, parce que ça veut dire que L'univers physique, s'il n'est pas peuplé de champs et de particules dans l'espace-temps, il est peuplé seulement de champs et de particules. Et donc la localisation spatio-temporelle, elle ne se fait pas relativement à une trame de fond inerte, mais elle se fait relationnellement. Autrement dit, la relativité générale, elle décrit le mouvement des différents objets, non pas par rapport au temps ou par rapport à l'espace-temps, mais relativement les uns par rapport aux autres. Donc l'espace et le temps, où l'espace-temps est vraiment de nature relationnelle en relativité générale.
Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, selon Newton, l'espace est séparé du temps.
Alors, non seulement l'espace est séparé du temps chez Newton, mais le temps existe en soi et l'espace existe en soi, indépendamment du contenu physique de l'univers.
Oui, c'est ça,
en c'est relativité que... restreinte, c'est l'espace-temps de Minkowski, qui reste une trame de fond inerte, qui n'est pas affectée par les entités physiques. Et c'est en relativité générale où les choses changent, effectivement.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, mais là tu vas un cran plus loin, absolument, parce que si tu veux, l'espace-temps, en fait, il y a un peu deux manières de le concevoir. Je suis d'accord avec celle que tu mentionnes qui est l'aspect relationnel, mais on peut considérer que la déformation de l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps, c'est quelque chose de substantiel qui se confond avec le champ gravitationnel et qui a une existence en soi. Ça, c'est l'aspect substantiel de l'espace-temps. Mais comme tu le disais, Alexis, on peut aussi considérer que cette notion d'espace-temps n'est qu'un intermédiaire commode pour substantialiser les relations entre les objets, leurs déplacements, finalement tout ce qui est géométrique, avec les autres particules, les autres champs qui peuplent l'univers, un peu de la manière dont le disait Leibniz pour l'espace. Hein. Leibniz, il disait, l'espace, c'est simplement une manière de repérer la coexistence, les relations entre les objets. Le temps, c'est simplement la manière de repérer les relations entre les événements. Eh bien, on peut dire qu'effectivement, effectivement, l'espace-temps, donc vision relationnelle, c'est la manière de repérer finalement le champ gravitationnel qui mesure tous les aspects géométriques et cinématiques des particules par rapport aux autres particules, par rapport aux autres champs qui peuplent l'univers. Donc tout est uniquement relationnel, il n'y a aucun substrat géométrique selon cette conception, avec laquelle je suis assez d'accord, et qui est un peu à la base de tentatives de quantification de la gravitation,
notamment de gravité quantique, dont vous parliez de Carlo Rovelli tout à l'heure.
Ouais. On y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h47 avec Marc Lachiazeré et Alexis de Saint-Ours. Nous venons de voir comment la relativité générale remaniait notre compréhension du temps et de l'espace. Alors comment aujourd'hui les théories physiques actuelles reconsidèrent-elles la nature et même l'existence du temps ?
L'existence du temps dans la physique, c'est fini, c'est périmé depuis pratiquement un siècle, même si beaucoup de... Beaucoup de monde, quelques physiciens encore, quelques philosophes encore n'ont pas réalisé la chose. Mais on essaye d'aller plus loin en se demandant, à partir de ce qui existe, c'est-à-dire à partir de l'espace-temps et des durées, à partir du fait qu'on voit, nous, quelque chose que l'on interprète comme le temps, on voit les systèmes évoluer, est-ce qu'on peut essayer de réintroduire cette notion de temps ? Et je faisais allusion tout à l'heure à ce fameux temps thermique. Mmh. Et c'est vrai que
qui a été proposé, il me semble, vers 93. C'est une théorie assez récente.
Oui, c'est dans les années 90 par Carlo Rovelli et Alain Cohn.
Voilà. C'est quelque chose qui résulte de la rencontre entre Alain Cohn, mathématicien, et Carlo Rovelli, physicien. Et si vous voulez, Alain Cohn, ce qu'il a fait, c'est arriver à concilier une description géométrique et une description algébrique, à la fois de la géométrie, mais aussi de tous les systèmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que suggère cette hypothèse du temps thermique, c'est que chaque système a en lui-même une direction d'évolution qu'on appelle le temps thermique, ce qu'on appelle un flux, le flux de Tomita, Takezaki, mais enfin, peu importe. Et donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait que le système soit dans l'espace-temps, enfin, qui n'a rien à voir, non, mais qui est simplement dû aux caractéristiques du système que l'on étudie de manière algébrique. Donc, un temps thermique,
Alors, oui. Pour bien comprendre, il y a une distinction entre système mécanique et système thermique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut...
Alors, non, parce que chaque système, vous pouvez l'analyser d'un point de vue mécanique et d'un point de vue thermique. Par exemple, si vous avez, un système qui est constitué d'un ensemble de particules, vous pouvez considérer la mécanique ou la cinématique de cet ensemble, comment il évolue dans l'espace-temps, peut-être qu'il va avoir un certain mouvement, peut-être que les particules vont se déplacer, vont se collisionner, et vous pouvez aussi analyser ça d'un point de vue thermodynamique. Donc la thermodynamique et la mécanique, ce sont deux points de vue qu'on peut avoir sur le même système.
Historiquement parlant, c'est vrai que la mécanique, dans les équations de Newton, le temps est réversible. C'est-à-dire que vous remplacez T par moins T, ça ne change rien aux équations. Alors que justement, la découverte de la thermodynamique au 19e siècle, c'est justement l'introduction d'une conception irréversible de la temporalité.
Alors, oui, sauf que je suis d'accord avec cette formulation, parce que pour moi, ça n'est pas le temps qui est irréversible, c'est l'évolution d'un système.
Ouais, on est d'accord, je suis d'accord.
Et même, j'irai encore plus loin, c'est la manière dont on regarde l'évolution du système qui est irréversible. Bon, enfin, c'est une question un peu différente. Juste comme je sais que le temps passe, je voulais juste faire allusion au fait que quand on a un système qui évolue dans l'espace-temps, on peut lui associer soit le temps dynamique ou géométrique qui est donné par la relativité générale, qui est donné par l'évolution des durées propres, soit lui associer un temps thermodynamique par l'intermédiaire de cette analyse un petit peu plus algébrique. Et les deux ont certains rapports, mais ne sont pas égaux. Et donc, on peut mesurer ce qu'on appelle la vitesse du temps, qui est exactement comment un temps varie par rapport à l'autre. Et ce qu'a montré Rovelli, c'est que dans la plupart des cas qu'on peut analyser, cette vitesse du temps, c'est exactement la température. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce temps thermique, la caractéristique, c'est qu'il mesure finalement le nombre de changements microscopiques du système. C'est-à-dire, quand on a un système, on peut se dire quel est le plus petit changement qu'il peut subir, le changement, l'unité de changement. Et ce que fait le temps thermique, c'est qu'il compte l'évolution du système en nombre de changements microscopiques. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Tandis que le temps géométrique, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui repère l'évolution du système dans l'espace. Et le rapport entre les deux, c'est la température. C'est quelque chose qui est quand même, à mon avis, un résultat, ça c'est assez récent, c'est un résultat qui est fondamental, qui nous dit quelque chose sur ce qu'on veut appeler le temps, ce qu'on veut appeler la durée, et qui fait le lien entre les deux notions.
Alexis de Saint-Ours, justement sur cette compréhension du temps avec le temps thermique.
Alors, je crois que on peut aussi considérer que ces travaux sur le temps thermique sont d'une certaine façon une réhabilitation du devenir, qui avait été un petit peu mis sous cap par un concept de temps trop prééminent. Mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension. Alors, c'est peut-être pour prendre un tout petit peu de distance par rapport au débat sur la physique, c'est qu'il y a d'autres disciplines qui parlent du temps. Et c'est vrai qu'il y a des tensions, c'est-à-dire que le temps géologique, le temps de l'évolution, c'est pas non plus le temps de la physique. Et vous savez peut-être que chez Platon, chez Aristote, il y avait une distinction entre physis et nomos, pour le dire vite, entre la nature et l'éthique. Et Platon considérait qu'il fallait fonder une éthique sur une physique. Et donc on voit bien qu'on a une sorte de tension, parce que d'un côté, on a la modernité caractérisée par une dissociation entre éthique d'un côté et physique de l'autre. Et d'un côté, on a une physique qui dépouille en quelque sorte le temps de tous ses attributs pour en arriver à quelque chose de moins en moins déterminé. Et de l'autre côté, la crise environnementale met en avant le fait qu'il y a des temporalités à l'œuvre dans l'univers, il y a des temporalités à l'œuvre sur cette planète Terre qui ne fonctionnent pas de façon synchrone avec le temps humain. Le temps de la nature, le temps géologique, le temps de l'évolution, c'est un temps cyclique, alors que le temps humain, c'est un temps linéaire. Et il y a une façon de réinterpréter, par exemple, la question des pollutions au regard de ces enjeux de temporalité.
Eh bien, merci à vous deux d'avoir pris le temps de parcourir cette vaste et complexe question, qu'est le temps. Et il est l'heure de retrouver un penseur qui a beaucoup écrit à son sujet, c'est Étienne Klein. On écoute sa chronique, le pourquoi du comment.
Dieu est-il scientifiquement démontrable ? Je vous ai déjà expliqué que l'idée d'atome a été pensée et débattue pendant plus de 2 millénaires, sans qu'on puisse déterminer si elle avait ou non une contrepartie dans la réalité. Et puis un jour, au début du XXe siècle, son existence a pu être démontrée, mais on a très vite réalisé que l'atome découvert n'a pas les propriétés de l'atome qui avait été préalablement imaginé. D'où une double leçon. D'une part, l'atome des physiciens est un objet dont les propriétés n'avaient été préalablement imaginées par personne. D'autre part, aucun objet physique ne ressemble, même de loin, à l'atome tel qu'il avait été imaginé par les grands anciens. Je me demande naïvement, vous me pardonnerez le saut quantique, si cette double leçon ne vaudrait pas aussi pour Dieu lui-même. Si, par je ne sais quel moyen, on parvenait à démontrer un jour son existence, sommes-nous bien certains que celle-ci serait conforme à l'idée préalable que nous nous sommes faites de lui ? Et si ce n'était pas le cas, par quels indices pourrions-nous parvenir à le reconnaître en conclusion de telle ou telle recherche ? Vous m'accorderez en effet que pour reconnaître un être, qu'il soit physique ou transcendant, il faut déjà le connaître. Or, quels sont les attributs de Dieu que nous pourrions connaître à l'avance et qui pourraient un jour nous le rendre connaissable et reconnaissable ? Je doute que les théologiens, pour ne parler que d'eux, puissent se mettre d'accord à ce sujet. Se pourrait-il au demeurant que, comme cela s'est passé pour l'atome, que le Dieu existant se révèle fort différent du Dieu qui avait été théorisé ? Et dans ce cas, comment pourrions-nous établir le moindre lien entre les deux ? Permettez-moi de vous faire part de deux autres réflexions personnelles, en ces temps où d'aucuns vont un peu vite en besogne en avançant que la science aurait prouvé Dieu, et en le faisant savoir urbi et orbi. Il me semble même faire preuve, c'est le mot, d'une certaine naïveté, d'abord à l'égard de l'idée de Dieu. Car si celui-ci apparaissait comme l'aboutissement d'une démarche scientifique, c'est-à-dire s'il était le résultat positif d'une enquête rationnelle menée par les chercheurs, son prestige se verrait sérieusement rabougri, si vous me permettez l'expression. Il n'aurait plus que le statut d'une connaissance. Une telle chute ontologique serait non pas la mort de Dieu, au contraire même, mais celle de la religion ou de la foi. Il ne serait plus nécessaire d'y croire, et cela n'aurait d'ailleurs plus de sens. Et par effet rétroactif, il faudrait alors considérer qu'avant ces soi-disant découvertes, Dieu n'aurait été qu'un bouche-trou cognitif, un mot masquant et déguisant somptueusement ce que nous ignorons, un être seulement invoqué pour combler le vide qui sépare nos connaissances des questions demeurées jusqu'alors sans réponse. Prétendre prouver scientifiquement l'existence de Dieu serait également faire preuve de naïveté à l'égard de la science elle-même. Car si la science devenait capable de délivrer une conclusion aussi définitive à propos de ce qui est a priori hors de ses champs d'action et d'investigation, cela impliquerait qu'elle aurait complètement terminé sa propre construction, au point de pouvoir trancher toutes les questions qui se posent, y compris celles qui ne sont pas scientifiques. Or, comme le disait le regretté Michel Serres, la science n'est pas, comme on pourrait le penser, le monde des problèmes en général, mais seulement le monde des problèmes tels que leur position même implique la possibilité de les résoudre. Ce n'est pas le cas de la question de l'existence de Dieu. Et comme vous le savez, la physique, pour ne citer qu'elle, n'est pas du tout achevée. Elle bute notamment sur la contradiction formelle qui existe entre ces deux théories fondamentales, la relativité générale d'une part, la physique quantique d'autre part. Voilà pourquoi il est recommandé de ne pas mettre en la matière, comme en beaucoup d'autres, la charrue de la conclusion avant les bœufs de la recherche.
Merci Étienne Klein et merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Merci à Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Garance Préma Agnolo, Céline Lozen, Natacha Demoule. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Lucas Finet. Merci à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, grâce à qui vous pouvez retrouver sur le fil Twitter @sciencecqfd toutes les sources sur lesquelles s'appuie cette émission. Une émission que vous pouvez podcaster à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.
Taureau, Sagittaire, Scorpion, Cancer, tout le monde connaît son signe astrologique et a consulté au moins une fois son horoscope dans la presse féminine.
Perrine Kervran.
Pourtant, la science a établi depuis la Renaissance que l'astrologie est un rideau de fumée. Cette semaine, LSD explore l'histoire et l'usage de ce qui, au départ, était une science et qui, grâce aux médias, est devenue une croyance à succès.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.